annonce, mais tous les trois.
Bonjour. Donc, ils nous ont mis un titre de conférence bien compliqué. Donc, rapidement, je me présente. Je vais laisser mes trois invités se présenter. Donc, Thierry Platon, je suis directeur de création d'un des trois studios qui est en PACA. Il y en a un par département. Mais j'aide aussi Frédéric dans son nouveau jeu d'infiltration. Il va vous en parler. Donc, je fais des jeux vidéo depuis assez longtemps également. Et pour ma part, je travaillais en tant que programmeur sur l'Arche du Capitaine Blood. Et c'est là que la première fois, il y a Philippe Ulrich qui est rentré et qui a dit « on a la French Touch ». Et voilà, on avait la French Touch à l'époque. Et effectivement, ce mot, il a été un peu banni, notamment par la presse, parce que la French Touch a été un peu synonyme de mauvaise réputation à un moment donné. Et oui, c'était plutôt des jeux compliqués, on arrivait rarement à finir, même des fois il y avait des bugs. Donc on a banni ce mot, et ce mot il revient un peu, il revient même assez fort, c'est peut-être aussi avec la French Tech. Et en tout cas, je pense qu'il y a certains de nos invités qui s'en réclament particulièrement. Non ? Un peu ?
La French Touch et moi, ça fait deux. Enfin, je le trouve trop générique, ce terme. Mais bon, je croyais qu'on faisait les présentations.
Vas-y, vas-y, enchaîne.
Ok, donc je me présente, Eric Chailly, j'ai commencé à créer des jeux en 83. Des jeux qui ne sont pas connus, sur Oric, sur Amstrad, et puis sur Amiga, notamment avec Another World, et récemment From Dust. Et puis là, cette dernière année, j'ai travaillé sur un simulateur d'éruption volcanique pour le musée du Piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion. Donc simulateur temps réel, y a des similitudes avec From Dust sur le type de simulation. Voilà, je vais passer le micro à Fred.
Bonjour, donc je suis Frédéric Rénal, je fais des jeux depuis aussi longtemps qu'Eric, et mon premier jeu est sorti en 1986, pareil, personne ne sait ce que c'est. Le premier qui a été vraiment connu s'appelait Popcorn en 1988, c'était un casse-brique en CGA en 4 couleurs, et une époque que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien connu. Disons que le plus connu après c'est Alone in the Dark en 1992, et ensuite Little Big Adventure 1 et 2, Toy Commander pour la Dreamcast, où j'ai travaillé pour Sega quelques années. Enfin bref, et d'autres productions, et surtout maintenant, donc Gloomywood, où je retourne à mes premières amours, c'est-à-dire le Survival Horror, avec un jeu d'infiltration horreur qui devrait être bien sympathique, mais je pense qu'on en reparlera aussi plus tard.
Bonjour à tous, donc je suis Alain Damasio. Moi, je suis vraiment le petit dernier et le fraîchement arrivé dans l'univers du jeu vidéo, parce que je suis écrivain de science-fiction. Et en fait, j'ai cofondé donc en 2008 avec quatre autres fous un studio qui s'appelle Dontnod Entertainment, et avec lequel on a réalisé Remember Me, donc un jeu AAA qui est sorti en 2013. Et derrière, Life is Strange, qui vient de sortir, qui est un jeu épisodique en 5 épisodes. Voilà, donc moi je suis arrivé ici parce qu'on avait besoin, dans la French Touch justement, de directeurs narratifs, en tout cas de créateurs d'univers capables de scénariser, de construire des univers originaux. Et à ce titre-là, c'est comme ça que j'ai été aspiré dans l'univers du jeu vidéo que je connaissais pas, très peu en tout cas. Voilà, et actuellement également, sur mon roman La Horde du Contrevent, il y a un jeu qui est en cours de création qui s'appelle Windwalkers, et dont on parlera peut-être aussi également. Voilà.
Bon, vous avez fait de la pub, vous avez remarqué. Eric, tu développes, c'était bien. Non, en fait, mon idée, c'était de commencer par passé, puis présent, futur, et puis, je ne sais pas, tu étais parti à nous raconter quelque chose.
Oui, tu veux que je parle de comment je faisais pour créer des jeux, des choses comme ça
ou... Non, tu m'as dit, je me sens très éloigné de la French Touch.
Ah, donc, c'est ça, le parce sujet. Que c'est, comme c'est... tu disais, c'est un peu... c'est un peu connoté, des jeux... Quand ce terme est apparu, il était c'était un peu les jeux qui étaient beaux, mais injouables. Voilà. Et puis, voilà, il est aussi assez générique, il y a un petit côté chauvin que j'aime pas trop. Moi, je préfère qu'on parle de la création française. Voilà. Puis après, je veux dire, pourquoi on ne dit pas l'English touch ou la German touch
En fait, je pense que le terme, il est quand même arrivé à l'époque où il y avait quatre pays qui produisaient des jeux vidéo. Le Japon, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Effectivement, on aurait pu avoir une Japanese touch, mais en fait, oui. Ils étaient quand même leaders sur les consoles, etc., etc. Donc ça leur donnait quand même une puissance de feu différente de nous. Les Américains, pareil. Et finalement, nous, on était les petits outsiders. Et je pense que c'est peut-être de ça d'où est venu ce terme French Touch, c'est qu'on était différents vraiment du reste du marché et on a inventé des choses différentes. Maintenant, t'as raison, pour moi, c'est super générique. On a cherché hier dans l'avion quel type de jeu n'avait jamais été produit en France. Un jeu de foot, un jeu de guerre, enfin, on a tout fait, quoi. En France, il y a eu tout. Donc, il n'y a pas un type particulier où c'est très difficile, quoi.
Parce qu'il peut y avoir des mouvements artistiques. Donc là, ça fait sens. Mais French Touch, c'est quoi? Donc, je propose qu'on ne s'étende pas là-dessus parce que c'est parce que. Non, on parle de la création. En fait. La création, puis voilà. Tu veux que je parle de quoi?
Non, mais là, je veux bien que peut-être Fred dise un mot sur le même truc, parce qu'on va quand même faire un minimum le tour du sujet, mais après, on va raconter d'autres choses.
Hein. Faux frère. Lâcheur. Non, mais je pense que Thierry a particulièrement raison. C'est vrai que dans les fin des années 80, début des années 90, là où Eric a fait Another World, moi Alone, il y a quand même eu, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de pays qui faisaient des gros jeux et qui étaient vendus dans le monde entier. Donc après qu'on hérite de ce petit sobriquet qui effectivement est devenu péjoratif, mais je ne pense pas qu'il l'était vraiment au début. Par contre, c'est vrai qu'après il est devenu, et c'est vrai que mettre tout le monde comme ça dans le même panier, alors qu'on fait des choses très 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 différentes, c'est un peu particulier. Mais en fait, il fait que, comme tu dis, il y a un petit côté chauvin, mais maintenant, c'est peut-être avec l'âge, d'avoir envie de le revendiquer. Et c'est pour ça aussi qu'avec Thierry, on est retourné sur un jeu comme ça, très, plus, très personnel, plus intime, et pour dire, ben voilà, peut-être que... Alors, je vais pas dire que nous, les Français, on fait quelque chose de différent des autres, mais comme tu dis, la German Touch, chaque pays, chaque culture, en fait, plutôt, je pense, forcément, il y a des choses qui se retrouvent et qui leur donnent des caractéristiques données. Donc on peut bien revendiquer un peu notre culture aussi, et puis sans forcément le faire exprès, s'apercevoir que oui, on y met beaucoup de ce qu'on a vécu, de tout ce qu'il y a. On n'imagine rien, en fait. On fait que agglomérer les choses qu'on a connues. Donc quelque part, forcément, on a un style lié à notre culture. Après, c'est effectivement, le terme, il est compliqué puisqu'il est passé un peu par toutes les étapes. Mais je pense qu'on devrait quand même peut-être l'entretenir et puis montrer un peu qu'on est toujours là, que même si maintenant il y a des gens qui font des jeux dans le monde entier, qu'on a tous là une belle expérience et des beaux artistes, des beaux programmeurs, enfin beaucoup de choses vraiment bien. Donc je pense qu'il faut qu'on pousse dans ce sens-là, juste histoire un peu de le revendiquer, et oui, d'être chauvin.
Au petit déjeuner, j'en parlais avec Alain, donc qui va forcément réagir sur ça, parce qu'en fait... on parlait jeux vidéo, etc. Et forcément, on a basculé sur science-fiction. Et dans la science-fiction, en fait, la French Touch, où pour toi, tu as une définition assez précise, finalement, de ce que ça peut être dans la littérature de science-fiction.
Oui, moi, je vais rebondir un peu sur ce qu'ils ont dit, parce que je trouve que c'est très intéressant. Sur un mot comme la French Touch, c'est évident qu'il y a une évolution du sens. Il y a même un oubli du sens premier. Moi, pour une génération comme la mienne qui arrive derrière, qui commence dans le jeu vidéo en 2008... J'avais pas le background de la French Touch, donc pour moi c'est pas attaché à une histoire, c'est attaché plutôt à une personnalité. Pour moi il y a quelque chose de très important, c'est l'idée d'un jeu vidéo d'auteur. Voilà, comme il y a un cinéma d'auteur français, il y a eu et il y a encore, je pense, un jeu vidéo d'auteur français, c'est-à-dire un jeu vidéo indépendant, fondé sur des histoires fortes, fondé sur une personnalité forte, hein, comme Eric Chailly, comme Frédéric Rénal, c'est très fort, très puissant. Et ça, je pense qu'il faut le garder. Voilà, il faut garder cette capacité à générer des jeux à partir d'une individualité, à partir d'une personnalité, et sans tenir compte du tout d'une réception possible au départ. Il y aura une réception, il y aura un public, parce que ça aura été fait avec les tripes, ça aura été fait avec une personnalité artistique extrêmement puissante, forte, et singulière, originale. Voilà. Et ça, je pense que c'est un trait français qui nous vient du cinéma, qui nous vient de la littérature aussi. On a cette espèce de morgue à certains moments, cette espèce de, sans le vouloir, sans peut-être même le savoir, mais la croyance dans le fait que une personne seule, un auteur seul, peut créer quelque chose qui a une grande valeur. Et alors, en littérature de science-fiction française, oui, il y a une particularité, je trouve, forte, c'est qu'on fait ce qu'on appelle de la soft science fiction, c'est-à-dire, soft science en anglais, vous savez que ça veut dire science humaine, science molle, plutôt que de la hard science fiction, c'est-à-dire la science-fiction liée à la technologie, au côté, comme ça, science dure. Et ce côté science humaine, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des considérations sociologiques, politiques, philosophiques, parfois anthropologiques ou comme on dit anthropotechniques, c'est-à-dire la façon dont l'homme pense son rapport à la technologie aujourd'hui, il y a vraiment dans la SF française ce côté-là, cette approche-là, ce qui fait qu'on va vers des jeux, je pense au jeu Remember Me qu'on a fondé, c'est quand même un jeu qui d'un point de vue de l'analyse de l'évolution de l'être humain par rapport à la technologie, a une vraie réflexion. Voilà, il y a une réflexion sur les technologies intrusives, sur qu'est-ce que c'est que cette espèce de préemption de la mémoire qu'on voit aujourd'hui, sur l'accumulation des données, le big data, et l'orpaillage de ces données par des grandes multinationales. Il y a ce côté cyberpunk très fort. Voilà, donc, et cet environnement-là, effectivement, moi j'ai travaillé avec une équipe où on était 4 écrivains de science-fiction français. Il y avait 3 grands prix de l'imaginaire dedans, donc c'était quand même des pointus. Et on a eu cette approche, cette volonté de mettre du sens, voilà, dans le jeu vidéo, d'amener en tout cas une réflexion à travers un jeu d'action d'aventure. Et ça, je pense que voilà, c'est effectivement un trait, une volonté française qui peut-être est caractéristique.
En fait, avant de venir, comme je disais, on a essayé quand même de se creuser la tête en se disant qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dans cette conf. Et notamment essayer de donner une définition de ça, et on n'a pas trouvé. Donc, mais vous ne trouvez pas que c'est une piste quand même, ce que vient de raconter Alain ?
Complètement. Le jeu, d'ailleurs, oui, c'est... Une création d'auteur, ça c'est, je pense que c'est ce qui nous caractérise, et c'est toujours de cette façon-là que j'ai œuvré depuis le début. Et je trouve, non mais c'est, mais du coup pourquoi dire French Touch ? Je veux dire, on pourrait dire jeu d'auteur, et au moins c'est clair et net, parce qu'aujourd'hui les auteurs en France, c'est les auteurs de jeux vidéo. On en parle assez peu. On va parler de studio, mais d'auteur précisément, c'est rare qu'on en parle. C'est rare en fait.
C'est vrai. Donc peut-être d'ailleurs, il y a une piste aussi à raccrocher avec quelque part une sorte d'exception française par rapport à la façon de gérer les droits d'auteur, et on a quelques lois vis-à-vis de ça qui sont aussi un peu différentes des autres pays. Mais je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais. Et je pense que la culture française, on a la chance de vivre dans un vieux pays, même plus que pays, restons pas peut-être que trop chauvin, un vieux continent qui a connu beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions, beaucoup de périodes tragiques, beaucoup de... Et je pense que de toute façon, ça fait partie de l'inconscient collectif et que tout ça, ça finit par rejaillir dans les... Même pas forcément dans l'écriture, dans juste... Ben, on le voit bien déjà dans notre quotidien. Si on essaye d'analyser un peu les choses que l'on fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'habitudes, de traditions qui sont complètement juste devenues notre vie normale sans qu'on s'en rende compte, mais c'est pas la même vie normale pour tout le monde. Ce qui fait que quand on fait un jeu et que l'on y met un petit bout de soi, comme ce qu'on fait tous ici, eh bien quelque part on y met un bout de là où on a vécu complètement inconsciemment. Et donc oui, c'est pas forcément un rapport direct avec la French Touch, mais il est certain que ce que l'on raconte, ce que l'on communique, forcément emprunte beaucoup de cette culture qui est riche. C'est pas le cas de tous les pays qui sont pas forcément... Le Japon fait partie des très très vieux continents qui ont une culture très forte avec beaucoup de choses, et on le voit aussi dans la diversité de leurs jeux et leurs inspirations. On retrouve des choses de leur culture un peu partout. Voilà, faut parler de la Japanese Touch quand même peut-être.
Bon, vous voulez qu'on parle d'autre chose maintenant ? Oui. Eric, il a envie. ouais, moi, longtemps, j'ai dit que les jeux français... Enfin, de l'autre côté, il y a d'autres pays qui ont des jeux où c'est beaucoup plus facile de définir. Si on parle d'un jeu allemand, et j'en ai souvent parlé avec des auteurs de jeux allemands, en fait, pour eux, c'est très clair ce que c'est un jeu allemand. C'est un jeu de gestion. C'est tous, et même ceux qui ne font pas des jeux de gestion, pour eux, c'est des jeux de gestion. Et c'est vrai que les Français, c'est plus compliqué, mais moi, j'ai toujours dit que c'était des jeux narratifs. Et je trouve qu'en général, les jeux français, ils racontent des histoires, ils ont toujours voulu raconter des histoires. Alors, il y en a qui mettent beaucoup de mots, il y en a qui mettent des mécaniques, il y en a qui mettent des dessins, il y en a qui mettent des feelings, mais en tout cas, ils racontent toujours des histoires. Ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Donc, parlons d'autre chose. Eric, tu voulais parler de quoi ?
Non.
Bah, si, de ce que tu fais en ce moment, jeu dont tu me parlais il y a un an sur une conférence, et tu m'avais dit je suis en train de le faire, et puis entre-temps, les volcans, et le jeu, on le verra ?
Bah, le jeu, je vais le reprendre dans les prochains mois. Non, mais c'était une aparté volcan qui était vraiment super intéressante. On a travaillé à deux sur ce projet, et... Enfin, je suis passionné de vulcanologie, donc c'était une chance énorme de travailler avec des scientifiques pour modéliser très finement le comportement de la lave, d'une éruption. Et il y a des moments, il faut savoir prendre des distances, se ressourcer. Et là, je me suis totalement fait plaisir sur un an et demi.
Et le prochain jeu va forcément parler un peu de lave ?
Bah, pas nécessairement.
D'accord.
Mais en fait, c'est encore très flou ce que je vais faire. Là, je me pose beaucoup plus des questions sur la façon dont je vais le créer.
Vas-y.
Est-ce que je peux raconter une anecdote là-dessus ? Parce que j'ai eu la chance d'aller à Montpellier comme ça et de découvrir Eric un peu grâce à un réseau d'amis. Et j'étais au studio d'Eric. Et un jour, on arrive et donc Eric nous présente ce qu'il était en train de faire. Et il faut que je vous raconte ça parce que pour moi, ça a été un déclic sur la compréhension de ce que veut dire justement un jeu d'auteur et un vrai travail d'auteur dans le jeu vidéo. Et on arrive, on se pose sur une chaise et il nous montre sur l'écran, il y avait juste des segments comme ça, blancs, avec des petits points au bout des segments. Et les segments définissaient des sortes d'arcs comme ça. Et progressivement, on voyait des arcs se former et tout d'un coup, commencer à rebondir, à sortir, à progresser, à se déployer d'une façon très animale, très, très étrange, parce que la base était extrêmement froide, c'était juste des segments, mais la façon dont les arcs se déployaient, progressaient, se sortaient de l'écran, avait quelque chose de complètement animal. C'était vraiment extrêmement fascinant. Et je demande à Eric, je regarde ça, et je lui dis, tu as une idée de ce que tu vas faire de ça ? Il me fait, non. Et pour moi, c'était vraiment très touchant, parce qu'il y avait quelque chose de complètement immanent, de complètement tripal, singulier dans la façon dont il codait ça, et ça véhiculait énormément de sensations avec très très peu de choses, et je me suis dit, c'est ça, c'est comme un pianiste qui compose, mais il compose avec du code, voilà, il a des lignes de code, il compose avec quelque chose qui est très personnel, un ressenti, un type de déploiement informatique, organique comme ça, et à partir de ça, il va créer un gameplay, il va créer une narration, il va créer un univers, il va créer un jeu, et ça sort complètement de l'intérieur, c'est pas conscientisé comme une narration, un univers, etc. C'est quelque chose qui moi, m'a beaucoup touché. Et j'ai compris à ce moment-là que voilà, le code était l'outil pour moi, un des grands outils aussi de la création en jeu vidéo. Alors que moi, je venais d'un jeu, dans Remember Me, où on avait travaillé en équipe, où il y avait 80 personnes, où c'était un jeu AAA, etc. Où la dimension auteur, à part le fait de construire la ligne narrative, etc., était pas visible, elle était noyée, il y avait beaucoup de gens, et elle était noyée dans l'ensemble du collectif. Et là, je voyais comme un compositeur qui, avant d'avoir l'orchestre, crée ses premières lignes de code. Et ça, c'était très beau. Enfin, moi, c'est un moment qui m'a beaucoup touché.
Je vais continuer sur ta lancée. En fait, c'est bien, là, tu m'as un peu mis un coup de boost. Alors, pourquoi tout ça ? C'est parce qu'effectivement, la façon dont je travaille, c'est que je travaille sur le ressenti et sur des thématiques. Et ce qui me fascine, c'est le mouvement, c'est le passage du temps, c'est le vivant, l'impermanence des choses. Et donc, ce travail, c'est comment explorer des briques de locomotion. Là, précisément, c'était explorer des briques de locomotion artificielle. Comment exprimer le vivant dans sa plus simple expression. Et donc, ce qu'a vu Alain, c'était le résultat d'expérimentation. Mais c'est ça. C'est il faut que ça m'habite quelque part, il faut que je sois rempli intérieurement par ce que je veux concrétiser sous forme de d'interactivité et donc sous forme de code. Et ce que, donc, quand je disais à Thierry, oui, mais là, je réfléchis sur la façon dont je vais créer les choses, bah, c'est comment. Parce que, bon, il y a du code, il y a du C++, il y a du C#, mais c'est, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer un langage qui serait plus précis, plus adapté aux jeux vidéo, quelque chose d'un peu plus haut niveau, où. Qui serait un peu moins explicite parce que en C, il faut décrire beaucoup de choses, des classes, etc. Donc, ça ne veut pas dire que derrière, ça ne serait pas du C, hein, bien sûr, mais c'est pour que ce soit plus jeté, en fait, le travail de création soit plus jeté. Donc, c'est une réflexion là, sur laquelle je vais commencer à travailler dans les prochains mois, enfin... Pour aboutir ça. J'ai une démarche qui est vraiment basée sur l'outil au départ. Sur Another World, j'ai d'abord créé des outils qui me semblaient judicieux par rapport à l'intention que j'avais. Et ensuite, bah, c'était la concrétisation du jeu. Voilà. Et je vais te...
Non, mais vas-y, continue, c'est très bien. Ce que tu dis, justement, je voulais... Il y a plusieurs choses qui ont été dites qui sont assez intéressantes. Déjà, après, je me demande si la French Touch, déjà, c'est pas une sorte de petit joyeux bordel ambiant, un peu au début. Peut-être qu'on est peut-être dans notre tête un peu... on fait beaucoup d'intuitifs, beaucoup d'instinctifs. Mais je voulais revenir sur le côté outil dont tu parles, où effectivement, ça peut paraître bizarre comme approche. Déjà, de demander comment... Mais en fait, il faut bien comprendre que faire des jeux vidéo, effectivement, il y a plusieurs médias qui sont dedans, ce qui fait qu'il faut qu'il y ait des gens qui dessinent, des gens qui écrivent et des gens qui codent, parce que la différence d'un jeu vidéo par rapport à tous les autres médias, c'est l'interactivité. Donc à partir de là, c'est carrément un nouveau langage et une nouvelle façon de s'exprimer, ce qui fait que la façon de voir l'interactivité se mélange complètement avec les graphismes, avec l'histoire, etc. Et que voilà, ben, comme une bonne recette, hein, il faut que ça prenne bien pour que tout fonctionne ensemble. Mais pour venir sur l'outil, quand tu parles du code, moi ça me parle beaucoup, parce que quand j'étais très 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 jeune, on va dire dans vers des 10 ans, je m'étais aperçu que pour avoir des copains et pour pouvoir discuter, il n'y avait pas l'informatique encore à cette époque-là, les jeux vidéo n'existaient pas ailleurs que dans les bornes d'arcade. Et j'avais remarqué qu'en faisant des jeux pour mes copains, des jeux de plateau, des jeux avec des cartes, des jeux avec des dés, et bien que ça créait une sorte de communication, d'interactivité, et que du coup, voilà, j'avais des choses à dire comme ça avec mes copains, et que c'était vraiment un moyen de communication. Et quand l'informatique est arrivée, en fait, mon premier ordinateur à moi, c'était en 1981, un ZX81, et que j'ai... alors, je faisais de l'électronique aussi, donc j'ai compris assez vite comment ça marchait, et j'ai surtout réalisé. Un jour, j'ai dit, mais c'est une machine pour faire des jeux, c'est-à-dire toutes les règles qu'on imagine, imaginez les Cluedo, les Monopoly, tout ça, c'est des règles qui tournent, ça ressemble quelque part beaucoup à du code, et d'un seul coup, cette machine-là, eh ben, elle allait pouvoir gérer des règles de jeu, et je me suis retrouvé comme un peintre qui découvre un pinceau, comme un sculpteur qui découvre un burin, et j'ai dit, ben voilà, ça va être mon outil. Et effectivement, une grande partie de notre travail, quand on a des envies, des idées pas forcément bien exprimées, ben, se passe souvent au début par faire des bouts de code, des bouts de tests qui ressemblent pas forcément à grand chose, mais c'est, ben voilà, j'ai une sorte d'envie de faire quelque chose comme ça, alors j'essaye, je touche, parce qu'un jeu, ça se touche avec les doigts, vraiment, on le manipule, contrairement à un livre, un film qu'on ne fait que parcourir. Là, on est vraiment un acteur dedans, donc ce côté tactile, eh ben, c'est comme quand un écrivain va faire lire une histoire, ben, ok, on l'aime ou on l'aime pas, on montre une image, ok, elle aime ou on l'aime pas, mais on montre un jeu, ben non, le jeu il n'existe que si on le touche. Donc pour savoir si un jeu est bien, et puis même quand on le fait aussi, eh ben, il faut le tripoter, le toucher, le challenger, et tester des trucs. Donc effectivement, on peut se retrouver comme de quoi ? La French Touch. Et oui, et quand c'est un Français qui touche, voilà, on a défini le terme, c'est bon. Merci Eric. Le côté tactile comme ça, vraiment, et du coup d'essayer même avec des carrés sur l'écran qui se déplacent et des choses qui fait quand on regarde, on dit, mais qu'est-ce que tu fais ? J'imagine très bien la sensation que tu as dû voir quand il faisait ça, parce que oui, pour l'instant, ça ne ressemble à rien, ce n'est pas ni figuratif, ni explicite, ni rien, mais voilà, on sent une sorte d'intention, et si en plus on y ressent déjà une émotion, en bougeant trois carrés, ça veut dire que quand en plus on va y mettre des jolis dessins et une jolie musique dessus, et que ça peut être bien. Donc vraiment, il y a une notion de travail commun entre les graphistes, les programmeurs. Personne là-dedans n'est vraiment un ouvrier. Alors ça dépend des tailles de boîte et des tailles d'équipe, mais en particulier dans les petites équipes comme nous avec Thierry Aglomiwood ou Eric encore, qui est encore plus solitaire que nous. Il y a vraiment voilà, ce travail de recherche d'une émotion à travers l'interactivité.
Non, je peux faire un petit retour d'expérience. Chez Gloomywood, ça fait un an qu'on ne fait que des outils. Et il n'y a que Fred qui sait ce que ça va faire à la fin. Et pour un pauvre petit producteur comme moi, ça fait peur tous les jours, parce qu'il n'y a que lui qui sait. Et au final, c'est magique, hein, je confirme. Mais ça fait bien flipper. Ça fait bien flipper.
Ça tombe bien que ça soit magique.
Ouais.
Ah oui, ça tombe bien. Celle-là.
Excusez-moi. On doit approcher de la fin. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Moi, j'avais dit qu'on prenait des petites questions de la salle. Je trouvais ça sympa, si vous avez des questions à poser à ces messieurs.
Non,
oui. Allez, je vais porter le micro. Il y a quelqu'un qui est chargé de ça, non? Je le fais. Hop.
Bonjour. Alors, en fait, j'avais une question. C'est pour vous trois. Est-ce que on vous a déjà... par hasard débauché sur d'autres projets dans un studio concurrent ou
Non, parce que... Enfin oui, débauché... Enfin, ça n'a pas de sens parce que comme je suis indépendant, si un projet m'intéresse, je vais aller travailler sur ce projet-là, mais je ne vais pas envoyer ma démission à mon employeur, j'en ai pas. Donc... En fait, c'est des contrats. Je fais des contrats d'auteur, donc ça n'a pas trop de sens pour moi. Mais je sais pas pour vous.
Oui, moi, en tant qu'écrivain, forcément, j'ai un côté plus nomade parce qu'on m'appelle pour travailler sur des narrations ou des univers. Par exemple, là, actuellement, je travaille sur un jeu qui s'appelle Dual, dont je vais rédiger un peu la backstory, qui est un jeu un space opéra. Type un peu MMO en ligne, et puis bien sûr je travaille un petit peu sur Wind Walkers, l'adaptation de mon roman en jeu vidéo pour Forge Animation, et parallèlement je travaille aussi pour Dontnod régulièrement sur le... Donc pour moi voilà, je ne suis pas attaché spécifiquement, même si Dontnod est mon studio, même si Wind Walkers est mon livre, je ne suis pas attaché spécifiquement à une société. C'est plus des univers, c'est plus je suis plus peut-être mercenaire, je ne sais pas, mais en tout cas J'aime bien varier, j'aime bien inventer d'autres choses, j'aime bien travailler sur des univers différents, donc voilà, ça, effectivement, je me balade.
Ça a été un peu différent pour moi, parce qu'en fait, on peut dire qu'on a plusieurs rythmes dans notre vie. Quand on attaque un projet avec une équipe, on sait qu'on est parti pour un an, des fois deux ans, des fois même plus, où là, effectivement, on est complètement dédié, et en plus, quand on est... comme nous et qu'on est complètement passionné, quand on dit dédié, quoi. C'est une vie consacrée à ce qu'on fait. Mais dans les périodes intermédiaires des projets, j'ai eu aussi des activités de consultant ou pour aller filer des coups de main en game design ou en façon de gérer des outils ou des choses comme ça, à droite, à gauche, ou des gens qui avaient envie de travailler avec moi, qui avaient un projet et que je venais voir pour leur apporter des idées ou des choses comme ça. Donc oui, ça peut changer, mais c'est vrai que je pense que quand on est autant passionné que nous, on a envie de travailler plus sur nos propres projets. Mais c'est toujours sympa de filer un coup de main aux copains.
Oui, bonjour. Tout à l'heure, Eric, Frédéric, vous êtes arrivé à une notion très intéressante, celle du jeu d'auteur et donc de l'auteur de jeu. Et vous avez fait le constat qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Hein, on entend surtout parler de studios et encore plus de grosses sociétés. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un créateur de jeu, quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui dans le jeu d'auteur, quel conseil, au fond, vous lui donneriez pour au moins se rendre visible, réussir. Enfin voilà, c'est parce que vous êtes arrivé à une période où c'était peut-être plus facile.
Tout à fait.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de distribution, on n'arrive pas un petit peu à une période charnière, voilà.
Oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs étapes. Effectivement, c'était plus facile de se faire un nom à l'époque où il y avait tout à inventer. Mais vous avez en fait donné la réponse dans votre question en disant comment quelqu'un qui veut se lancer pour faire un jeu d'auteur, là, il n'y a qu'une seule réponse. Qu'il se lance, qu'il soit graphiste, musicien, écrivain, programmeur. Alors, programmeur, c'est sûr que ça aide un peu plus pour pouvoir faire un jeu. Mais il y a tellement d'outils maintenant qui existent, qui permettent avec... Bon, il faut... Ça reste sera de la logique, hein, des règles de jeu, de toute façon, c'est une machine, hein, quelque part. Mais il y a plein d'outils qui permettent à des gens de s'exprimer. Donc si c'est quelqu'un qui veut être auteur, il faut qu'il se lance et qu'il apprenne son métier, comme nous on l'a fait de manière autodidacte à l'époque, puisqu'on n'avait pas le choix, et qu'il essaye. Mais il y a l'autre moyen aussi, ce qui fait que on peut très bien dire, je vais faire des jeux vidéo et décider de rentrer dans une société. Bon, alors dans ce cas-là, il faut avoir un peu d'études, que ça soit d'infographie, de programmation, autre chose comme ça, et de rentrer par la petite porte, et puis petit à petit, de gravir les échelons à l'intérieur, c'est aussi une possibilité. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vous disiez aussi qu'il y a moins d'auteurs maintenant, mais en fait, quand c'est des équipes de 80, 100, 300 personnes, forcément, la création, elle est très, très diluée dedans. Donc, bien sûr, il y a des quelques têtes qui sont dedans, mais selon la taille des projets. Donc, en gros, c'est plus facile de reconnaître un auteur s'il est tout seul à avoir fait son jeu, ou pas beaucoup, que dans des grosses équipes où ça devient beaucoup plus... Alors, je dirais industriel, mais pas dans un sens péjoratif, hein, parce que c'est comme au cinéma. Quand il y a des grosses productions, eh ben, oui, tout seul, ça prendrait 50 ans. Donc, il vaut mieux être 50 et le faire en un an. Donc,
je vais répondre à la question, en fait. Je vais changer de casquette. Donc, je suis aussi vice-président du syndicat national du jeu vidéo depuis 6 ans. Et on a fait un sondage sur les 280 studios qui composent le SNJV. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même 60% de studios où ils étaient moins de 4 personnes. Dans la salle à côté, il va y avoir des présentations de jeux indés, ça s'appelle du jeu indé. C'est souvent des équipes de 2 personnes qui ont fait ça. Aujourd'hui, il y a ce marché qui refait surface, qui est du jeu indépendant. Un jeu indépendant assez compliqué à définir, mais en tout cas, c'est souvent des contenus hyper innovants. Enfin, ça innove quelque part sur du gameplay, sur du graphisme, sur des thématiques, etc. Il y a d'autres grandes tendances du jeu vidéo. Par exemple, je parlais dans l'avion de Game for Change, qui est essentiellement organisé à New York par Al Gore, mais c'est une grosse initiative autour du jeu pour changer le monde. Et là, c'est pareil, c'est souvent des toutes petites équipes qui font des tout petits produits. Et après, c'est de la promotion. Et là aussi, on assiste à un autre truc qui vient avec le jeu indépendant, c'est des salons de jeux indépendants, dans lesquels, en fait, c'est beaucoup des auteurs qui font de l'autopromotion. Et depuis 4-5 ans, il y a quand même des nouveaux auteurs de jeux vidéo qui sont apparus, surtout plutôt côte ouest, en fait, parce qu'on est un peu à la traîne en France, mais on y arrive. Et je pense que c'est une notion qui revient très, très fort, parce que c'est une vraie valeur. Une autre question, peut-être ?
Bonjour, j'ai 2 questions en une en fait. On parle de French Touch, moi de suite me vient à l'esprit Jean-Michel Ansal avec Rayman. Pour moi c'est une French Touch, donc déjà savoir ce que vous en pensez. Et par contre, quand on parle de création de jeux vidéo, moi j'ai vu le documentaire Indie Game The Movie, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle Indie Game The Movie. Donc en fait c'est sur 3 créateurs indé qui ont fait Fez, Super Meat Boy, et le troisième je ne l'ai plus. Quand on voit ça, ça fait peur. Parce qu'on, enfin, les gars sont... je sais que c'était sur Fez. Le gars est chez Microsoft. Il lui donne un certain temps de sortir le jeu à tel jour, telle heure. C'est pas fait. Le gars, on voit dans ses yeux qu'on lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe si ton jeu sort pas? Il répond clairement, genre je me suicide. Le gars, on le voit, il a peur, quoi. Donc, ok, faire du jeu indépendant, ça reste bien parce qu'on se considère comme électron libre. Mais est-ce que ça peut pas aussi avoir ce sentiment de peur de se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que si je suis, entre guillemets, sponsorisé par une grosse société qui me laisse plus ou moins de temps, qu'est-ce qui peut se passer si j'arrive pas à rentrer dans les clauses d'entente d'argent, de temps? Donc,
Ah ben ça, c'est, je pense, tous les métiers de création, c'est que oui, quand on crée dans son coin au début, qu'on n'a pas de contraintes et qu'on a un projet, c'est juste le bonheur, on prend le temps qu'on veut. Dès que le projet rentre en production, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui travaillent dessus, là, à Gloomywood, avec Thierry, nous sommes 10 maintenant à travailler sur le jeu, donc bien sûr, du coup, ça devient aussi une société, mais ça, c'est, et il faut s'occuper
ben voilà, et de la gérer. Donc, et puis en plus, on est, comme je disais tout à l'heure, des passionnés, et puis on a de toute façon aussi des moments de doute, et des moments de stress, et des moments dont on veut tout balancer, et puis le lendemain, c'est génial, et puis c'est les métiers de création, ça, c'est toujours, donc il y a toujours ça, entre les petits caractères de chacun, et de comment ils se sentent à ce moment-là, et la réalité de la vie, qui est qu'après, une société, ben, il faut qu'elle tourne, il faut qu'ils aient pensé à l'argent, on ne fait pas des choses sans argent. Donc oui, alors j'ai pas vu le film, hein, donc je peux pas du tout comparer avec ce qui est dit.
C'est un film à grand spectacle, hein, Fred. C'est un film à grand spectacle. Ils ont rajouté comme ça, donc ouais. Mais il a raison, hein. C'est un peu stressant quand même.
Voilà, donc c'est...
Mais même dans les gros studios, enfin c'est pas spécifique. Je crois que dans les gros studios, ils doivent voilà. bien plus Peut-être... stresser même que nous, parce qu'ils ont beaucoup plus de gens dont ils sont responsables pour continuer l'activité. Donc c'est beaucoup plus flippant à mon avis. Enfin. Pour avoir eu 40-50 employés, c'est beaucoup plus flippant qu'aujourd'hui 10 personnes chez Gloomywood. Hein. On est tranquille là.
Ah oui, la création, c'est toujours, toujours compliqué. Hein. C'est rarement totalement fluide. Donc, être auteur, ouais, faut s'accrocher. On peut se planter. Il ne faut pas avoir peur de se planter. Il n'y a pas de honte à se planter. Il y a des projets que j'ai arrêtés en cours de route, il y a des projets sur lesquels je me suis accroché corps et âme jusqu'au bout. Et donc je rebondis sur ce que tu disais, voilà, les grosses boîtes, etc. Bah, travailler par exemple sur un projet dans une grosse société, c'est pas forcément évident non plus, parce que quand on est seul sur un projet, on peut abandonner le projet. Mais parfois, ça peut venir de la direction. Dans les grosses boîtes, il y a des tas de projets qui sont killés, mais purement et simplement. Des gens qui vont bosser pendant un an, deux ans sur un projet, et on va leur dire, bah non, c'est terminé, l'équipe est dispersée, et puis, roule la vie, voilà, vous avez changé de projet. Et donc ça, on n'est pas dans un contexte de... C'est différent, voilà, les développeurs ne sont pas totalement maîtres de leur navire, et ça peut être très dur aussi à vivre. Donc dans tous les cas de figure, la création c'est difficile, que ce soit dans une grosse ou à l'échelle individuelle.
Moi j'ai un chiffre horrible, c'est 80% des jeux qui sont commencés ne finissent jamais, en fait. Il y a 20% de jeux qui arrivent au bout, quoi, des prods.
Ce qu'il faut, c'est être humble. Non, mais c'est vrai. Quand on crée, parce qu'on se retrouve vite piégé à vouloir mettre trop de choses, alors que finalement, il y a besoin de peu de choses pour qu'un jeu fonctionne. Toujours prendre du recul. Ça, c'est l'essentiel. C'est pas facile. Voilà, je me fais toujours avoir.
On va prendre peut-être une dernière question. Ah oui, mais je vous êtes plein là, d'un coup. Vous ne voulez pas tous poser la même question, ça serait plus simple en fait. Ou alors on va essayer de répondre rapidement et de faire les trois questions.
Bonjour. Bonjour. Juste une petite question. Comment est-ce que vous voyez justement l'avenir du jeu indépendant, des créateurs? Sachant qu'il y a des plateformes comme Kickstarter qui sont, je crois, exclusivement réservées aux anglo-saxons. Quelle est la part du marché maintenant des indés par rapport aux grosses boîtes comme EA ou les autres? Quel regard vous avez sur ça?
Ben ça, c'est une question pour Thierry.
Les parts de marché, elles sont infimes, en fait, du jeu indé. C'est pas par rapport au AAA. C'était ça la question?
Mais peut-être pas en nombre de personnes, par contre, qui travaillent dessus. Il y a beaucoup, beaucoup. Et de nos jours, effectivement, on est quand même une période particulière, parce qu'il y a une dizaine d'années de ça, je ne sais pas pour toi, Eric, mais on en parlait avec Paul Cuisset, qui est aussi qui a inventé des jeux extraordinaires. Et il y a 10-15 ans de ça, on se disait, bon, mais voilà, l'époque qu'on a connue, maintenant, elle est finie. Il n'y a plus que les studios de 50 ou 100 personnes. Et ça, c'était il y a 15 ans. Maintenant, il y a des studios de 500 ou 1000 personnes. Mais on se disait, bon, mais voilà, est-ce que nous, on a quelque chose à faire là-dedans. Il y a une, c'est une autre époque. Et en fait, petit à petit, ils sont arrivés plein de. Il y a eu la Wii qui a rendu, enfin montré une certaine forme de jeu grand public. Il y a eu bien sûr les smartphones de manière générale. Et surtout, avec tout ça, un paquet d'outils, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui permettent maintenant à quelqu'un de tout seul ou juste quelques copains ensemble de pouvoir faire des choses. Et ça, ça existe à plein d'endroits. Après, comme disait Thierry, quand 80% de projets abandonnés, je ne sais pas après si c'est un chiffre qui est plutôt officiel par rapport à nos sociétés, mais je pense qu'il y en a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de petits jeux commencés par des gens chez eux qui avaient envie. Et puis après, il y a ceux qui auront ou le temps, ou le courage, la force, ou le talent pour pouvoir y arriver. Parce que c'est vrai que quand on est joueur, on a tous envie de faire un jeu, mais c'est très 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 différent de faire un jeu que de jouer à un jeu, et c'est toujours très difficile, tout seul, à 10 ou à 500. En fait, finir un jeu, arriver à quelque chose de complet, c'est vraiment quelque chose de difficile, qui demande vraiment beaucoup de travail, mais tout le monde a sa chance. Quelqu'un de tout seul, il y a des beaux exemples, dernièrement, Minecraft est quand même un exemple absolument extraordinaire de quelqu'un dans son coin qui avait envie de faire son jeu, et voilà, il l'a fait, et avec le succès qu'on connaît. Donc en fait, voilà, c'est vrai que c'est pas facile, mais tout est permis. Pour tout le monde, c'est l'avantage de les moyens de communication modernes aussi, qui permettent à tout le monde d'avoir une visibilité. Alors, en même temps, c'est facile à dire et c'est très très difficile à obtenir, mais voilà, il faut lancer un des 20.
Oui, moi j'ajouterais aussi qu'il y a différentes tailles d'indépendants. Tu peux faire un jeu seul, tu peux faire un jeu à 4, il y a beaucoup de jeux à 3 ou 4, je trouve, et tu peux faire des jeux comme on le fait à Dontnod, c'est-à-dire on est un studio indépendant, on est maintenant 60 à peu près, et je trouve que c'est une bonne taille. C'est une taille suffisamment grande pour pouvoir être assez fort et faire des jeux à 3-4 millions d'euros, et en même temps à protéger les équipes à l'intérieur qui vont créer et qui vont être indépendantes. Moi, je vois sur Life is Strange, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a une structure de 60, mais en fait, le jeu, il a été fait d'un point de vue auteur par 3 personnes. Et ces 3 personnes-là ont été entourées, il y a des codeurs autour d'elles, il y a des artistes, il y a des illustrateurs, etc. Il y a des gens qui s'occupent du marketing, c'est-à-dire qu'ils ont autour d'eux un écosystème dans la boîte, évidemment, qui leur permet de travailler. On les a beaucoup protégés. Parfois, il y a eu des engueulades dans la boîte pour dire on les protège trop, etc. On leur laisse trop faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, on a eu raison. On les a effectivement laissé faire ce qu'ils voulaient. Et ils ont fait un très bon jeu, je trouve. Et un jeu qui est considéré d'ailleurs par la presse comme un jeu indie, en tout cas avec une patte très, très indie, mais protégé dans un cadre plus gros, où il y a 50, 60 personnes qui sont... Donc je pense que c'est possible. Cette taille-là est aussi possible. Voilà. Pas seulement des tailles à 3-4, mais des tailles de studios indépendants. Mais nous, on a eu la chance, d'avoir un financement indépendant qui nous a soutenus du début à la fin et qui nous soutient encore, même quand la boîte a des difficultés. Et c'est souvent ce qui manque. On n'a pas parlé de la structure de financement, mais c'est extrêmement important. La plupart des projets, le problème, c'est qu'ils sont pas, il n'y a pas d'investisseur capable de faire ce qu'on appelle de l'amorçage, c'est-à-dire capable de parier sur un jeu alors qu'il en est au tout début, quoi. Nous, on a eu cette chance et ça a été décisif, quoi. Ouais.
Pardon Eric. Et si vous voulez voir un peu justement ce qui peut se passer, les hauts et les bas, on a un blog de développement pour notre jeu Too Dark, qui est toodark.cc, le site web, et on poste ce qu'on y fait, nos pleurs, nos joies, tout ce qui peut un peu se passer pendant le développement de ce jeu. Donc je vous invite à suivre le site toodark.cc pour voir un peu ce qui peut se passer pendant le développement d'un jeu.
Il y avait une question.
Bonjour. J'ai une question par rapport aux outils qui peuvent aider à la création de jeux vidéo. Vis-à-vis de cela, est-ce qu'il y a des outils que vous avez utilisés qui sont des outils pour vous de prédilection dans la création d'un jeu ? Est-ce que vous en créez en interne ou alors est-ce que vous utilisez des outils qui sont créés à cet effet par les studios ? J'aimerais en savoir un peu plus à ce sujet.
Il faut venir sur le blog de toodark.cc pour s'en savoir. non, mais très très franchement, il y a de tout en fait. On va pas refaire un Photoshop pour tout ce qui est les dessins 2D. Photoshop, c'est des centaines d'années de travail. On va pas s'attaquer à ça. Par contre, dès qu'on a des petites spécificités, et en particulier quand on a commencé dans les années 80 comme Eric, où il n'y avait pas tous ces outils, on a appris aussi à les faire. Et on s'est aussi aperçu que lorsqu'on avait envie de faire des choses qui n'existent pas, des choses spécifiques, on était obligé de se créer ses propres outils, et que quelque part, c'était aussi une sorte un outil supplémentaire, une arme supplémentaire de séduction, je dirais, parce que ça nous permet du coup d'éditer des choses. Quand Eric a fait Another World, qu'il a fait son outil pour éditer des polygones, il n'y avait pas d'outil comme ça qui existait, et donc il a été obligé de le faire. Pareil moi pour Alone in the Dark, les objets 3D animés comme on voit dans tous les jeux maintenant, il n'y en avait pas, donc il fallait que je fasse mon propre modeleur 3D et animateur 3D pour pouvoir, je voulais faire animer des personnages comme ça, et il n'y avait pas d'autre solution, 3D Studio n'existait pas à l'époque. Donc après, en fonction des besoins du jeu, maintenant il y a des outils voilà, pour la 3D, pour la 2D qui font plein de choses, mais dès qu'on a besoin d'un petit truc spécifique comme dans, je reparle de tout Dark Concord, je suis un peu monomaniaque en ce moment, mais on a des petits bonhommes qui sont en voxel, enfin une sorte de petit sprite 3D, quelque chose qui n'a jamais été fait, et donc pour ça obligatoirement il fallait faire un outil dédié pour pouvoir faire le rendu final que je voulais. Donc il y a aussi un côté recherche qui est important, parce que voilà, pour je veux ce look là, personne n'a fait ce look là, donc on va faire les outils pour pouvoir avoir ce look là.
Bon, ça s'appelle Lumivoxel Editor et c'est en vente sur notre site.
Oui, aussi.
Une autre question.
Et bonjour, bienvenue à Monaco. Bon, aujourd'hui, merci. Il ne fait pas soleil comme d'habitude, mais bon, on fait avec. Je remercie d'abord M. Reynal pour mon tout premier Survival Horror que j'ai pu jouer. C'était Alone in the Dark 3. Je ne sais pas si vous étiez dans le développement.
J'ai fait que le 1.
Ah, que le 1, bon. Eh bien, je vous remercie pour la licence, du coup. Voilà.
Mais merci à vous, hein. Comme je disais tout à l'heure, hein, quand on fait des jeux pour faire jouer ses copains, ben voilà, merci, parce que c'est ça la vraie récompense.
J'ai une question pour M. Damasio. J'ai vu que Life is Strange a eu un petit souci avec l'épisode 2, avec du piratage. J'aimerais bien savoir, pour un studio comme vous, quels sont les risques, les dégâts qui subissent, justement, à cause du piratage, et les solutions possibles justement contre ça.
Bah, c'est un problème très, très dangereux, et très dangereux pour les studios de taille moyenne comme nous, quoi. C'est-à-dire que nous, il faut savoir, quand on fait un jeu comme ça, c'est toute la société qui est suspendue au succès ou à l'échec du jeu, quoi. Et qui est suspendue à la capacité à vendre suffisamment pour pouvoir ensuite faire d'autres projets, quoi. Donc quand on est piraté sur l'épisode 2 comme ça, ça fait peser un risque effectivement très important. Bon, il se trouve que c'était une version qui était intermédiaire, donc qui ne va pas être de la qualité de la version qui va sortir, et qu'on a pu défendre ça. Mais c'est très menaçant, effectivement c'est très menaçant, et ça a impliqué pour nous de mettre en place tout un ensemble de systèmes de protection pour qu'il n'y ait pas de fuite, pour que ça ne soit pas hackable. Ça va toucher forcément beaucoup, beaucoup de studios, et notamment des studios qui ne sont pas peut-être aussi protégés, aussi gros qu'un GTA, un Rockstar, qui va être peut-être capable de mettre des systèmes de protection encore plus costauds que nous, quoi. Donc danger, bien sûr, danger, très gros danger, et ça peut plomber complètement un projet, hein, sur des... Donc ça nous a fait très très peur, hein.
Alors, dernière question, il paraît. Bonjour messieurs, ma question est spécialement pour monsieur Damasio, puisqu'elle porte sur Remember Me. J'ai eu l'impression en jouant que il y a un passage dans le jeu où l'héroïne, enfin, par empathie je dirais moi, est brisée un mur et j'ai inondé un quartier de Paris et j'ai tué 200 000 personnes, je crois, ce qui était une forme de terrorisme quelque part. Et j'ai trouvé étonnant que la presse vidéoludique et même la presse générale, parce que c'était quand même une sortie française, donc qui a été assez commentée, a parlé du fait que l'héroïne était métisse, a parlé que Neo Paris était très chouette, mais n'a pas parlé finalement de la violence du jeu, alors que sur un Call of Duty où il y a une scène dans un aéroport où on tue des innocents, cette scène a fait scandale, on n'était pas obligé de tuer qui que ce soit. Tandis que dans votre jeu, enfin dans Remember Me, c'était quand même 200 000 personnes qui passaient à la trappe pour défendre effectivement une idée tout à fait défendable sur le, mais c'est ce que dirait finalement n'importe quel terroriste. Et donc ma question était quand même sur la portée que peut avoir le public d'un jeu par rapport au message que vous allez mettre ou pas dans une œuvre, et ce qui en ressort finalement le jeu fini. Comment vous interprétez finalement qu'il y ait des points qui fixent les réflexions et d'autres qui passent finalement à travers le filtre et qui ne sont pas commentées?
Ouais, je suis pas sûr d'avoir absolument tout compris à la question. Moi, simplement, je voulais dire sur Remember Me, il y avait un rapport à la violence qui était justement à l'inverse de ce que tu dis, qui pour moi est extrêmement tempéré. Par exemple, sur les combats, on ne fait pas un seul mort dans Remember Me, parce que les combats consistent à neutraliser la mémoire de l'assaillant. Et c'était quelque chose qu'on avait décidé dès le départ avec Alexis Briclot et Jean-Maxime Maurice, qui était le directeur créatif. C'est qu'on ne voulait pas de ces jeux où on tue. Voilà. Et donc, on a absolument refusé ça. Et on a un jeu où, effectivement, on neutralise la mémoire, on crée un overload mémoriel, mais il n'y a pas de meurtre. L'héroïne ne tue pas. Après, il y a l'histoire des héroïstes, effectivement, mais... Enfin, honnêtement, moi, je pense que ton interprétation, elle est un peu erronée par rapport à ce barrage qui s'effondre. C'est plutôt le gouvernement qui, derrière, va créer cette inondation et tue des gens. Et les terroristes essayent de lutter contre ça, au contraire. Enfin, moi, je défends en tout cas une vision de la résistance qui est une résistance positive. Moi, je dis toujours, c'est pas le terrorisme dont on a besoin, c'est d'un errorisme, c'est-à-dire de gens capables de créer des erreurs système et de hacker le système quand il est négatif pour l'améliorer. Voilà, donc... C'est plutôt la magie blanche hein, dans le hacking qu'on essaie de défendre. Par contre, sur le personnage, il y avait un aspect intéressant, politiquement et moralement, qui était qu'à des moments, le personnage manipule les mémoires, les mixes, les remixes, et qu'on voulait que le joueur soit en situation de s'interroger sur le sens de ce qu'il fait. Voilà. Parce qu'à des moments, il pousse quelqu'un au suicide, par exemple, hein, il y a une manipulation qui pousse un policier au suicide. Quand tu le joues, tu te retrouves piégé dans le fait de dire « mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» quoi. Et ce côté autoréflexif, ça nous intéressait beaucoup parce que ça nous permettait d'amener enfin le moment où le joueur prend du recul et se dit « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» et quel sens ça a ce que je produis quoi. C'est difficile hein, de créer la réflexion dans le jeu vidéo, mais c'est parfois par des boucles de gameplay comme ça particulières qui créent un effet miroir que tu y arrives. Quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Vous voulez commenter les tracés des valeurs dans le jeu vidéo ? Non ? Ah bah c'était ça sa question, non ? Enfin, moi je l'ai compris comme ça. Mais bon, je vais finir peut-être en concluant et en rebondissant un dernier coup sur la French Touch. On se disait quand même ce matin, justement, que dans le jeu français, il y avait peut-être moins de morts que dans les autres jeux. Bah, c'est pas sûr. Bah, merci à tous, merci à tous les trois.
Merci, merci à vous. Merci vraiment à tous nos intervenants. Moi, je vais juste intervenir en tant que fan perso. Je vous dis merci beaucoup parce que bah voilà, hein, Alone in the Dark, moi c'est une de mes premières claques et Another World, bah pareil. Hein, voilà. Maintenant, j'espère en avoir beaucoup. Voilà, hein. Bon, Life is Strange, c'est très très bon. Hein, mais enfin, moi, j'ai grandi et je pense que beaucoup dans la salle aussi ont grandi avec ces jeux et c'est vous êtes un des piliers du jeu vidéo, faut le dire. À un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, merci beaucoup. merci beaucoup Thierry aussi pour la modération et vraiment, c'était très très intéressant de voir ces cette acceptation ou non du terme French Touch, et j'espère à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup, on peut les applaudir.